Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Merci de suivre encore une fois cette émission que vous connaissez, Economia, avec notre consultant habituel, Faustin Onozon, qui sera avec nous et qui parle encore aujourd'hui de la notation financière. Nous avons décidé d'en parler encore une fois dans le cadre de cette émission avec notre invité, que vous pourrez retrouver dans quelques minutes, le temps de démarrer cette émission par le lexique économique. À ne surtout pas oublier aussi, vers la fin de cette émission, les conseils de Coobris dans le cadre des tendances de la bourse. Bienvenue à tous et merci de suivre Radio de la Paix.
Le lexique économique. Le lexique économique.
Rôle et intérêt de la notation financière.
On l'explique et on le réexplique. La notation financière est une technique permettant de mesurer de la solvabilité et la volonté d'un emprunteur à faire face à ses obligations financières à court et ou à long terme. Les notes donc attribuées à un emprunteur sont des opinions sur la probabilité relative donc du défaut de paiement de sa dette.
Quelles sont les agences de notation financières africaines?
On peut en citer quelques-unes. Augusto & Co, qui est la plus ancienne, qui est une entreprise basée au Nigeria et spécialisée dans l'information économique. Il y a aussi le Global Credit Rating & Co, une entreprise sud-africaine qui est basée à Johannesburg. Elle existe depuis 1996. Il y a aussi Bloomfield Investment Corporation, Bloomfield Corporation, qui est créée en 2013. Il y a aussi cette agence West Africa Rating Agency, la WARA, qui est en concurrence, on peut le dire, avec Bloomfield sur le marché de la notation financière en Afrique francophone. Elle était agréée en 2012. Et puis, la dernière, Ewatch Africa Investment Analytica SA, qui est la dernière née du secteur. Ewatch est la première agence de notation financière basée en Afrique centrale.
Regard sur la gestion économique nationale.
Monsieur Onozon, toujours rendez-vous pour vous informer en ce qui concerne l'actualité économique. Monsieur Onozon, bonjour.
Bonjour, monsieur Comé.
Voilà, aujourd'hui, nous continuerons encore à parler de notation financière, mais nous allons nous intéresser à des structures qui sont les agences de notation. Il y en a, hein, des agences de notation internationales. La semaine passée, vous avez donné quelques noms. Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Mais il y a aussi des agences africaines qui essayent de frayer leur chemin. Nous allons nous intéresser à ces structures là. Alors, monsieur Onozon, justement, rappelons le rôle des agences de notation de manière générale.
Mais une agence de notation, d'une manière générale, est créée dans le but de mettre l'accent sur la solvabilité financière d'une entreprise ou d'un emprunteur. C'est cette définition que j'avais donnée la semaine dernière.
Alors, dans ces agences, il y en a connues depuis, avec lesquelles nos pays collaborent depuis longtemps. On peut les citer, les plus célèbres.
Oui, Standard & Poor's, Moody's et Fitch.
C'est les trois. Hein.
Voilà, c'est les trois qu'on
appelle. C'est des structures américaines basées où?
Les deux premières sont des structures américaines et la dernière, Fitch, est une structure à capitaux, j'allais dire, européens.
Alors, mais on se pose la question, hein, on va revenir à un de nos sujets qu'on a abordé. Pourquoi ce sont les Occidentaux qui édictent les règles? On pourrait se poser la question, un pays asiatique qui va se faire évaluer sur les standards des pays occidentaux, est-ce que ça ne crée pas quelques incompréhensions de fois?
Pas tellement. Ils n'édictent pas les règles. Les règles sont des règles universelles. Et ces structures se basent sur ces règles-là pour pouvoir faire une évaluation. Et vous n'allez pas me dire que lorsqu'on fait une analyse en mettant l'accent sur les caractéristiques économiques et financières d'une entreprise, par exemple, et qu'on parle des bilans, des flux financiers, etc., vous n'allez pas me dire que ce ne sont pas des règles universelles. Ce sont des règles universelles. Mais je pense que ces structures-là aussi devraient tenir compte de certains aspects socio-économiques, j'allais même dire culturels, pour certains pays, comme des pays africains, par exemple, ou même asiatiques, pour pouvoir faire leurs différentes évaluations.
Et justement, vous le dites, il existe quelques agences qu'on peut qualifier d'africaines. Lors de la récente Assemblée Générale donc, de la BAT, le président de la BAT même s'est plus ou moins offusqué du fait que deux fois, pour les mêmes notations, les pays africains sont lésés par rapport à l'investissement, par rapport donc, à des prêts. Est-ce qu'il existe des agences africaines? Si oui, quelques-unes.
Oui, Il existe effectivement des agences africaines. Et en Côte d'Ivoire, je préfère commencer par mon pays.
Oui,
Bloomfield Corporation, qui est une agence ivoirienne.
Qui
fraise son chemin et qui est en train de faire, un travail assez remarquable.
Mm-hmm.
Et Bloomfield, de plus en plus, s'insère dans les agences de notation africaines.
Mm-hmm.
Qui interviennent un peu partout dans pas mal de pays africains. On a aussi d'autres agences. La plus ancienne, le nom c'est Augustine & Co, c'est-à-dire et compagnie. C'est une agence de notation qui a été créée en 1992. Et elle est présente dans tous les pays, l'Afrique australe, Zimbabwe, Zambie, Kenya. Et puis Bloomfield, dirigé par notre compatriote Stanislas Zizé, qui fait un travail remarquable. J'avoue que son travail est tout à fait exceptionnel. Voilà,
et ça, c'est un financier qui parle, on a compris.
Tout à fait. Il a surtout mis l'accent sur le développement du marché financier en Afrique. Et vous savez que tout ce qui est bon et obligation du Trésor, nous avons un marché à nous. Quand on prend les pays membres de l'UEMOA, par exemple, nous avons un marché au niveau de l'UEMOA, les 8 pays membres. Mais on ne reste pas au niveau de l'UEMOA, on va aussi au-delà de l'UEMOA. Et je crois que les notes que Bloomfield donne sont des notes qui sont répercutées un peu partout. C'est pour vous dire un peu le sérieux de cette structure. Voilà.
C'est dire qu'il y a des agences de notation régionale africaines qui essaient de se frayer le chemin en tenant compte, comme vous l'avez dit, des réalités africaines, n'est-ce pas? Des aspects sociaux, culturels, socio-économiques du continent.
Oui, parce que je prends par exemple certaines questions assez spécifiques. Lorsqu'on rentre dans la théorie économique et financière, et je prends le cas par exemple de l'épargne, d'aucuns disent que l'épargne est une fonction croissante du taux d'intérêt. Et quand j'étais encore à l'école, au cycle supérieur de la BCA au siège à Dakar, et nous avons eu à faire une étude spécifique, et nous avons constaté au cours de cette étude-là qu'il y a certaines affirmations qui n'étaient pas tout à fait fondées. Parce que lorsqu'on a fait une analyse objective, un peu plus cohérente, on a regardé le graphique et on a constaté que c'est au moment même où le taux d'intérêt baisse que très souvent, pour ce pays africain qu'on avait choisi, c'est en ce moment-là que l'épargne augmente. Alors que logiquement, l'épargne devait baisser. Alors, vous voyez, et donc, ce qu'on a retiré comme commentaire, après cette analyse, nous avons constaté que ce n'est pas toujours que lorsque le taux d'intérêt augmente, l'épargne aussi augmente. Parce que nous avons été un peu plus loin. On a pris un échantillon représentatif et on a été auprès des membres de l'échantillon, on leur a demandé, mais chez vous, l'épargne, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait courir? Vous épargnez beaucoup? Ou est-ce parce que l'épargne fonctionne du taux d'intérêt? Ils nous ont dit non. Chez eux, c'est purement simplement culturel. Lorsque vous n'épargnez pas, vous n'êtes pas quelqu'un, on ne vous respecte pas. Il faut avoir beaucoup d'argent, vous voyez. Donc, il y a des aspects culturels qu'on ne peut pas ignorer. Voilà. Alors, si une structure comme Moody's ou bien une structure comme Fitch voyait cette façon de procéder, mais ils n'y comprendraient pas grand-chose. Pour eux, ils vont appliquer purement et simplement la théorie économique et financière et dire que ce sont des pays qui ne respectent pas les normes en matière de gestion de la théorie économique et financière. Oh non, il y a des aspects culturels, socio-économiques dont il faut tenir compte.
Alors justement, comment l'environnement pourrait influer sur la gestion, par exemple, des économies nationales?
Au vu de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut tenir compte d'abord de ce que nous sommes, de nos différentes sociétés, de nos aspirations culturelles, économiques et financières. Et il faut les indexer et il faut les mettre en rapport avec la gestion de nos politiques économiques et financières. Si on les ignore, je pense qu'on serait en train de faire fausse route. Et c'est fort possible qu'on rejette par exemple un pays compte tenu de ses résultats en matière de politiques économiques et financières. Mais il faut aller un peu plus loin pour voir que ces résultats ne sont pas forcément mauvais, qu'il se peut qu'ils soient même probants et qu'il faut aider certainement ce pays.
Dans la même veine, on sait que par exemple, on ne dira pas pourquoi le travailleur africain met beaucoup d'argent dans la célébration donc, de la personne disparue, pour parler des funérailles, c'est culturel. Peut-être que le blanc ne comprendrait pas pourquoi une famille prend son épargne pour enterrer quelqu'un. Ça fait partie de la culture.
Et ça fait partie des paramètres macroéconomiques. Et l'Africain ne dépense pas justement tout son argent dans les funérailles. Il est organisé comme tout être humain qui réfléchit, j'allais dire. Et puis, ces dépenses qui sont faites là relèvent des paramètres macroéconomiques. Il s'agit de la consommation. Lorsqu'elle n'augmente pas, on ne peut pas penser à une augmentation de la production nationale. Cette croissance économique dont on rêve très souvent peut ne pas être effective si vous ne faites qu'épargner. Mais il faut consommer.
Mais c'est une manière aussi de consommer, on a compris. Mais alors, en quoi la notation financière contribue-t-elle à la transparence, la gestion des finances?
Ça, c'est une très bonne question. En fait, effectivement, cette notation financière contribue à la transparence financière. C'est de ça que vous voulez parler?
Oui, c'est ça.
Oui, parce qu'il y a des points essentiels, il y a des règles. Et lorsque cette notation financière devient, par exemple, une obligation dans les réglementations en vigueur dans les différents États, vous comprenez par là qu'elle contribuera effectivement à la transparence financière. Et lorsqu'on vous dit, par exemple, que pour pouvoir bénéficier d'un prêt, il faudrait qu'une entreprise soit susceptible de rembourser ses dettes à court terme, à moyen terme et à long terme. Et lorsqu'elle n'a pas cette capacité, et par exemple, de remboursement de ses dettes à court, moyen et long terme, bien, il va sans dire qu'on ne peut pas donner à cette entreprise, on ne peut pas faire un prêt à cette entreprise. Mais pour en arriver là, elle a cette obligation de respecter les différents paramètres financiers dans le cadre de sa gestion. Si elle ne les respecte pas, si elle ne respecte pas le niveau des capitaux propres, elle ne respecte pas le niveau des dettes à court terme, elle ne respecte pas le niveau des immobilisations qu'il faut dans une entreprise, elle ne respecte pas la gestion même du compte financier, mais il va sans dire qu'une telle entreprise, elle ne peut pas bénéficier d'une véritable aide ou alors d'un prêt qui est fait à l'issue d'une notation financière.
Ce sont les mêmes exigences pour un pays aussi, hein, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Il ne faut pas chercher à lever les fonds et puis demain être en défaut de paiement.
C'est cela.
Le défaut de paiement, c'est quoi? C'est lorsque vous n'avez pas les devises requises pour pouvoir payer les investisseurs internationaux, mm-hmm. ceux qui ne prennent pas en compte le franc CFA, mais qui prennent en compte des valeurs refusées telles que le dollar. Voilà. Donc, il faudrait que vous ayez une balance de paiement cohérente, une balance... la première ligne de votre balance des paiements soit excédentaire et la seconde aussi, il faudrait que vous ayez un solde monétaire négatif. Cela suppose que vous avez la capacité de rembourser vos différentes dettes en devise, bien sûr.
Alors, M. Nozon, merci pour ces précisions. Mais est-ce que, pour continuer, est-ce que les notes qui sont justement attribuées restent pendant une année ou bien à quelle périodicité, par exemple, les pays sont évalués ou les entreprises?
C'est chaque année. Parce qu'un pays comme une entreprise, ben, c'est comme une personne. Vous pouvez être bien portant aujourd'hui et puis ne pas être bien portant demain ou après-demain, mais c'est exactement la même chose. Donc, vous avez besoin de faire un bilan de santé, ne serait-ce qu'annuel. Et pour l'État, pour les entreprises, il y a aussi une réévaluation. C'est l'intérêt même de la notation financière, puisqu'elle met l'accent sur les forces et faiblesses des différentes entités concernées. Bon, cela constitue, j'allais dire, une volonté de transparence hein, pour les prêteurs. Pour les prêteurs, cet état des choses doit être vérifié régulièrement. Et quand on est transparent sur son risque, on a plusieurs opportunités. Voilà. Mais quand on n'est pas transparent sur son risque, les opportunités diminuent.
Alors, mais que penserez-vous de ces investisseurs qui, deux fois, hein, qui font fi hein, de ces... on ne va pas les citer, mais il y en a qui, malgré des situations voilà, de certains pays qui sont mal classés par ces agences, décident d'aller investir. Est-ce que, vu sous l'angle de l'homme d'affaires, c'est des risques qu'ils prennent?
Mais comme dirait l'autre, ça c'est à leur risque et péril. Mais s'ils ont pris la tâche des agents de notation, c'est bien pour prendre en compte les différentes conclusions issues du travail qui a été effectué par ces agents de notation. Je ne sais pas s'il y a des liens particuliers ou, comme dirait l'autre, séculaires entre ces investisseurs et ces entreprises ou ces différents pays. Mais l'objectif essentiel d'une agence de notation, c'est de faire une analyse objective de votre situation économique et financière et de permettre aux investisseurs de ne pas faire fausse route.
Est-ce qu'il n'y a pas un aspect, on peut dire, politico-économique quelque part, voilà, de décider que ce pays ne respecterait pas tel. Est-ce que, bon, vous qui êtes financier et qui travaillez dans une structure seulement dans ce sens-là, est-ce que les pays concernés qui sont évalués ont un mot à dire lorsqu'une agence dit, bon, vous êtes triple A, vous êtes BB, vous êtes C. Est-ce que les financiers des pays concernés, évalués, ont des mots à dire pour dire, oui, on explique que là, on n'est pas d'accord sur ce critère avec vous? Est-ce qu'il y a des échanges à ce niveau?
Oui, bien sûr. Il y a des échanges, c'est comme le travail qui est fait par le Fonds et la Banque mondiale. Il y a des réunions périodiques qui se font et puis au vu des conclusions qui ressortent à l'issue de l'analyse objective de vos activités économiques et financières, vous avez votre mot à dire. Vous avez votre mot à dire et puis très souvent, et lorsqu'on tire des conclusions, ben, c'est une conclusion au niveau de laquelle tout le monde est unanime. On n'y tire pas une conclusion au niveau de laquelle il y a des différences de points de vue. Lorsqu'on veut ouvrir tout ce qu'on a fait, mais c'est parce qu'à la base, on a tous été d'abord d'accord. Donc ce que vous dites là, Ça, c'est ce qui se passe dans l'antichambre. Mais lorsqu'on veut revenir sur les conclusions d'une éventuelle étude qui a été faite, c'est qu'on s'est tous mis d'accord auparavant.
On s'est tous mis d'accord. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons pour les différentes économies de nos pays. Monsieur Onoson, on va s'arrêter là pour poursuivre la semaine prochaine en creusant toujours ce sujet fort intéressant, la notation financière. Merci à vous, Monsieur Onoson.
Merci, Monsieur Koumi.
On se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Notre numéro avec Monsieur Kouaou Brice. Heureux de vous retrouver. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Koumi. Bonjour à tous les auditeurs.
Alors, c'est sûr que les travailleurs, mais ceux aussi qui ont travaillé depuis un certain moment, nous écoutent. Je parle des retraités notamment. Justement, je suis retraité, j'ai peut-être eu ma pension. Est-ce qu'un retraité, pour être concret, pourrait éventuellement s'intéresser au placement en bourse?
Je dirais oui. Maintenant, il faut être franc et expliquer clairement aux gens ce que ça rapporte, dans quel délai ça rapporte, pour qu'ils voient si c'est l'activité qui convient au stade où ils sont. Comme on l'a dit dans l'une des émissions, il y a deux postures chez les marchés financiers. La poursuite de l'investisseur et la poursuite du spéculateur. L'investisseur gagne sur le moyen long terme dans les revenus générés par son placement et dans la croissance du capital. Le spéculateur gagne dans le court terme dans la variation des cours. Strictement, on dit que les nouveaux devraient éviter la spéculation parce que c'est plus risqué. Et moi, je le dis surtout parce qu'ils sont occupés, ils ont un travail. Donc quelqu'un qui est au travail ne peut pas appréhender les marchés financiers et toutes ces fluctuations comme quelqu'un qui est à la maison. Dans ce sens, ça nous donne la possibilité de dire mais un retraité pourrait envisager la spéculation puisqu'il a le temps de s'y consacrer. Mais je me pose la question, est-ce que d'un point de vue du stress, c'est approprié pour quelqu'un de 70 ans d'affronter les fluctuations des cours de bourse, les variations des marchés financiers? Je suis partagé sur la question. Mais pour tout débutant, donc qu'il ait 67 ans ou qu'il ait 30 ans, nous recommandons une stratégie d'investissement d'abord, pour au moins assimiler le stress des marchés financiers avant de rentrer dans la spéculation. Quelqu'un qui a 67 ans, qui a 65 ans, vous me direz, mais qu'est-ce qui lui reste? Vous direz, en 2 ou 3 ans, il peut avoir déjà des premiers résultats concrets, tout dépend du capital qu'il apporte à l'activité. Mais pour toute personne qui démarre, je dirais commençons par l'investissement.
Commençons par l'investissement, mais justement, on l'a dit, hein, toute personne qui veut investir en bourse, vous passez par les SGI, et puis les SGI suivent l'opération. Mais Monsieur Kouaou, j'ai décidé d'investir, j'ai fait l'opération. On m'envoie par exemple des notifications, et puis je dois faire un choix. Comment je dois être guidé pour faire le choix ou le bon choix, selon vous?
C'est notre rôle sur le marché financier actuellement. Les SGI publient, comme vous avez dit, des avis avec une recommandation. Mais ce qui est drôle avec le document, fait 13 pages. Il y a une page entière d'avertissement disant que la SGI n'est pas du tout responsable. C'est nous qui devons prendre la décision en faisant nos propres recherches, etc., etc. Une page sur les 13 d'avertissement avant de donner la recommandation. Donc, nous sommes venus sur le marché en disant ces gens doivent raisonner par eux-mêmes. Pour ce faire, c'est comme un conseil. Quelqu'un te donne un conseil, mais tu raisonnes par toi-même pour acheter ou pas le conseil. Mais tu raisonnes comment si on t'a pas appris à raisonner. Donc, nous proposons aux épargnants, aux investisseurs, une méthodologie qui leur permet de raisonner, qui leur permet de dire bon, selon moi, voilà les éléments qui sont importants. La SGI aborde telle conclusion, je suis d'accord avec elle, je prends. Ou je ne suis pas d'accord avec elle, je peux appeler l'analyste pour faire une petite discussion, ça va durer 5 minutes, il va me donner peut-être plus d'éléments que ce qui est écrit, ça va me conforter dans sa position ou ça va me conforter dans la mienne. Mais au moins, on aide les gens à avoir un filtre de raisonnement ou à aborder justement ces recommandations-là.
Alors, mais pour un retraité, on revient toujours au retraité, pourquoi il serait intéressant d'investir en bourse?
Ce que je veux montrer aux Ivoiriens, c'est qu'il y a des questions qu'on se pose qui sont justes. Mais on s'arrête à l'interrogation. On se dit, mais je suis dans le privé. J'aurai un tiers de mon salaire à la retraite. Si le salaire déjà ne suffit pas aujourd'hui, ce n'est pas un tiers qui va suffire à la retraite. Et moi, je dis, non, renseigne-toi sur les différentes stratégies pour que ta retraite ne soit pas un objet de tracas. Vous connaissez certainement ces gens qui, à l'âge de la retraite, ne veulent pas la retraite parce qu'ils n'ont pas mis en place les stratégies pour. Donc, nous, on vient, on dit aux Ivoiriens, la bourse peut constituer un véhicule de placement intéressant pour justement constituer un complément de revenus à la retraite. Donc, ce n'est pas d'abord pour les retraités, mais c'est pour financer la retraite pour ceux qui ne l'ont pas encore atteint.
Donc, vous conseillerez de commencer à s'intéresser à la bourse lorsqu'on est encore en activité que d'attendre?
Oui, je vous dirais simplement, comprenons ça simplement. À quel moment quelqu'un doit faire une plantation d'EVA? Est-ce que c'est quand il a la retraite ou c'est avant d'aller à la retraite? À quel moment quelqu'un doit faire une plantation de cacao, un élevage? En fait, à quel moment quelqu'un doit préparer sa retraite? C'est pas à la retraite, c'est avant. Donc nous, on vient en disant, dans ce avant-là, quelles sont les solutions qui s'offrent à toi? Leur dit, aujourd'hui, si tu es dans un coin que tu peux pas faire un champ, tu peux pas faire certaines choses, tu peux réfléchir à un plan de cotisation sur des entreprise qui permet d'avoir des revenus pour financer la retraite. Si vous estimez que la bourse est si risquée, pourquoi la CNPS investit en bourse? La CNPS prend des participations des entreprises cotées à la BFM. Elle met 30% de ses fonds sur les actions, cotées ou non cotées. C'est une information publique. Donc si la structure qui est chargée de financer votre retraite investit votre cotisation dans une société cotée, pourquoi vous-même qui avez le reste à travers votre épargne ne songez pas à la même chose? Vous me direz, ils ont les outils pour ça, ils ont les personnes pour réfléchir. Je vous dirai oui, mais déjà, ça veut dire que la chose n'est pas aussi risqué que ça. Maintenant, nous, on peut vous apprendre justement à l'échelle du petit particulier comment raisonner pour pouvoir aussi prendre des décisions en s'appuyant toujours sur les recommandations des SGI, sur les stratégies des grands investisseurs, mais pour que vous aussi, si la BFM doit rapporter quelque chose dans 20 ans, que ça vous rapporte vous aussi dans 20 ans.
Que ça vous rapporte dans 20 ans, c'est donc la conclusion de M. Kouaou. On se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour parler de bourse encore. Nous vous disons merci de votre fidélité.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.